Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Fréquence Mistral. Il est 15h et vous entendez le générique de Da Capo. C'est une deuxième pour cette émission. Le mois dernier, nous nous étions attaqués au thème de la fugue et ce mois-ci, nous nous attaquons au vaste chantier qui est la musique traditionnelle des Balkans et la danse également des Balkans. Et j'ai des invités de marque aujourd'hui. Il s'agit d'Isabelle Courroy et Maya Mineva. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps.
Très bien, avec plaisir. Et moi, je vais commencer, donc je suis Isabelle, et je vais commencer par parler de Maya, ce qui m'enchante toujours. Donc Maya Mirneva est bulgare. Elle habite en Provence depuis une vingtaine d'années, peut-être même un petit peu plus, elle vous le dira certainement. Et elle est danseuse. Et en tant que musicienne spécialisée dans les musiques des Balkans, j'ai eu le plaisir de la rencontrer peu de temps, je pense, après son arrivée en Haute-Provence et de commencer une collaboration qui n'a pas cessé depuis, ce dont je suis très heureuse. Donc Maya est danseuse. Elle fait partie de ces gens rares qui sont danseurs et danseuses professionnelles des danses traditionnelles, ce qui est très rare en France. Et c'est depuis le début de notre rencontre un sujet de complicité, ce professionnalisme qui est rare dans nos pays, dans notre pays en tout cas. Donc Maya vous racontera son histoire, comment elle est arrivée peut-être en France, etc. Mais moi je vais vous parler de notre collaboration. Donc les musiques que nous faisons sont très souvent, pas exclusivement, mais quand même majoritairement liées à la danse. Et pour les danseurs, c'est toujours très agréable d'avoir des musiciens qui jouent pour les danseurs et non pas des petits boutons sur lesquels on appuie pour faire play ou pause pour faire danser les danseurs. Donc avec Maya, on a ces plaisirs-là assez souvent, en tout cas le plus possible. Chaque fois qu'on peut, on se rassemble pour unir partager nos passions qui sont liées à ces musiques-là. Et particulièrement, puisque Maya vient de Bulgarie, particulièrement pour moi, qui joue un instrument dont les lettres de noblesse sont beaucoup en Bulgarie, qui est le kaval. Donc Maya, en tant que bulgare, est une partenaire pour moi très importante, puisque ses musiques liées au kaval sont parfois très méditatives, très solitaires, mais sont très souvent très rassembleuses et très faites pour la collectivité, que ce soit le village, la famille, les fêtes, etc. Donc la musique est quand même très souvent liée à la danse. Et Maya a une espèce de rayonnement quand elle danse qui donne envie de jouer toujours et de ne pas s'arrêter. Voilà.
Merci.
Maya, quelques mots sur Isabelle.
Bonjour. Ah, Isabelle, oui, nous sommes rencontrés, je crois, il y a 18 ans à peu près. Donc juste peu après mon arrivée. Par chance. Voilà, ça c'était une vraie chance d'entendre une musicienne qui me touche à tel point. Tout début, je me suis dit, non mais elle est bulgare aussi.
Je suis française.
Oui, et elle joue la musique de manière que ça touche le corps et le cœur. Et c'est important pour pouvoir danser, d'avoir d'une musique qui vient sous sentiment, qui donne envie, qui transporte. Et que ça te permet de te lancer dans la danse. Donc voilà, ça c'était un premier qui me marquait. Et en même temps, j'ai considéré comme une immense chance d'arriver dans ce pays lointain et de pouvoir continuer à pratiquer la danse avec de la vraie musique, avec la musique live, de créer des projets, de faire des créations aussi. Car ces danses se font exclusivement sur musique live, avec des musiciens qui leur permet la vivacité, et elles sont toujours présentes et elles sont toujours en évolution permanente. Donc merci Isabelle.
Donc la danse et la musique vous ont rassemblé. C'est en Bulgarie ce que vous avez pu constater, le rapport entre la danse et la musique est vraiment très très lié.
C'est en Bulgarie, c'est tous les pays des Balkans, tout simplement, car c'est toujours très vivant, très présent, c'est pratiqué par toutes les générations. Hein. C'est réellement un rassembleur, comme dit Isabelle, ça rassemble les générations dans tous les moments importants de la vie aussi.
Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour promouvoir un événement qui va avoir lieu ce dimanche, le dimanche 18 mai prochain. Il s'agit de Tovae, qui rassemble justement vos compétences musicales et de danse. Est-ce que je peux en savoir plus ?
Alors Tovae. Tovae, déjà c'est un titre qu'on a trouvé ensemble en réfléchissant comment allait se présenter ce projet. Le contexte général, j'en dis deux mots, Maya, tu diras peut-être un peu plus précisément, c'est l'année dernière une commande. Donc l'année dernière on avait cet événement de Marseille-Provence 2013 qui a généré quelques coups de projecteur, on peut le dire, et on espère que ce ne soit pas justement que des coups de projecteur, on espère bien que ce soit une vraie dynamique de fond qui se soit installée et qui ne se limite pas à l'année 2013, bien sûr, fin de la parenthèse. Donc, quoi qu'il en soit, donc on a eu la chance avec Maya de faire partie de quelques binômes comme ça que la région a rassemblé pour faire à qui on a fait des commandes. Donc on nous a fait une commande donc à toutes les deux d'un projet de création sur les musiques et danses des Balkans. Sachant que Maya avait une implantation très forte avec un groupe de danseurs dans la région, donc ici entre Digne et Manosque avec les conservatoires, et moi un aussi important dans le pays d'Apt avec un atelier de musique, de flûte cavale et musique des Balkans. Donc à partir de ces deux réalités-là, et du fait qu'on se connaissait bien, qu'on avait pas mal de complicité déjà, on a eu cette proposition de faire conjointement, donc de répondre à une commande de création, musique et danse des Balkans. La régie culturelle qui a été la grande organisatrice de cet événement est très attachée à la pratique amateur. Donc c'était l'enjeu, le challenge aussi, de réunir des professionnels qui eux-mêmes génèrent et gèrent enfin, un groupe d'amateurs en vue de ces créations. Donc les journées étaient très riches, les journées de restitution, puisqu'il y avait des ateliers de musique indienne, des ateliers de musique des Comores, des ateliers de musique arabo-andalouse, et j'en passe, hein, je ne vais pas les citer tous, mais il y avait beaucoup de musique occitane, vraiment des choses... très intéressante et très, très colorée, quoi, bien sûr, à l'image de la région et de Marseille, et dont l'argument était que les différences nous enrichissent et que toutes ces différentes couleurs font une très belle palette au final. Et donc, Tovae s'est inscrit dans ce projet. Donc Tovae étant bulgare, donc je laisserai Maya dire ce que ça veut dire Tovae, mais c'est une expression du langage courant dont on le dit tout le temps à tout bout de champ, Tovae, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est ça. Pour nous, il y avait une histoire que Maya vous expliquera, un petit peu associée au fait de l'actualité, hein, qu'on n'est pas dans un rapport... au passé folklorisant par rapport à tout ça, on est vraiment dans un présent très très actuel, quoi. Enfin, c'est un pléonasme de dire présent très actuel, mais quand même, si, quelque chose qui se passe maintenant, quoi.
Donc vous avez tenu à maintenir ou en tout cas de donner à voir et à entendre une certaine tradition, mais de l'intégrer à quelque chose qui tient de la création et donc du contemporain.
Voilà, donc Maya va peut-être vous en dire plus sur le mot déjà, Tovae.
Oui, Tovae, c'est ainsi. Effectivement, c'est employé assez fréquemment et c'est toujours au présent.
C'est ainsi, tu dis. Ça veut dire c'est ainsi.
C'est ainsi, oui. C'est ainsi, au présent. Car ces musiques et danses sont toujours au présent.
Mm-hmm. Toujours perpétuées et toujours...
Toujours, tous les moments importants de la vie. Ça peut être dans des endroits improbables ou difficilement concevables pour ici en France, en discothèque, les jeunes, au bout d'un moment, il y a des musiques traditionnelles, ils se prennent par les épaules. C'est incroyable. Vraiment un fort moment de partage. Et ça, c'est aussi possible, en fait, c'était tout va et c'était possible aussi à réaliser parce que Isabelle a énormément de qualité, et la qualité c'est de connaître ses danses et de les pratiquer. Elle est faite avec plaisir et c'est une musicienne qui sait jouer très bien pour la danse. C'est important, elle n'a pas oublié que ces musiques sont créées au départ pour la danse. On les a transformées beaucoup pour des musiques de concert. Mm-hmm. Mais s'il y a le rapport à la danse, ça se joue différemment. Et c'était possible aussi, car Isabelle avait cet esprit-là de ne pas hiérarchiser les musiques et les danses. Elle vient de la musique classique, n'est-ce pas Isabelle?
C'est ça.
Médaille d'or de flûte traversière.
Oui.
Voilà, donc elle est allée s'enrichir, donc elle considère comme un enrichissement
tout à fait,
de travailler pour les danseurs et avec ces musiques-là. Je ne me trompe pas?
Oui, tu ne te trompes pas. Pour moi, c'est très important d'ailleurs de traverser les frontières, qu'elles soient géographiques ou sociales ou structurelles, et de type de langage. Pour moi, il n'y a pas une musique... Évidemment, il y a une musique savante et une musique populaire. Ce n'est pas moi qui vais faire en sorte que, simplement en proclamant des idées, non, qui va détruire ces frontières. Elles existent, il y en a, mais il nous appartient de les traverser. Donc, je pense que c'est... Et pour moi, c'est très important de les traverser. Et si la musique... Pour moi, la différence peut-être plus entre une musique et une autre, c'est plus l'attitude du musicien. Est-ce que le musicien va être au service de la musique ou est-ce que le musicien va se servir de la musique? Et pour moi, la différence, c'est le plus là que des différences de critères de langage. Donc, ces frontières, pour moi, c'est très important de les traverser.
Et en parlant de frontières, vous avez beaucoup voyagé dans ce grand territoire qui est le territoire des Balkans. Donc, vous avez fait également tout un travail ethnomusicologique aussi de récolte de sons, de chants populaires que vous avez ensuite remaniés. Vous avez pu intégrer de la création par-dessus. Est-ce que je me trompe?
C'est vrai, tout est vrai, sauf peut-être le mot vraiment ethnomusicologue, parce que je ne suis pas ethnomusicologue. Je suis vraiment musicienne, c'est-à-dire à titre, j'ai pas eu la démarche d'ethnomusicologue qui, avec toute la méthodologie de l'ethnomusicologue qui va archiver, qui va tout bien trier, etc. Pour moi, chaque fois que je rentrais d'un voyage, mes notes n'étaient pas du tout à jour comme celles d'un ethnomusicologue méticuleux. C'était plutôt plutôt lié à une espèce d'empressement de travailler ça, d'écouter ça. Donc la méthode du point de vue de l'ethnomusicologue, ça je ne l'ai pas eu. Mais par contre, en tant que musicienne, oui, j'allais avec beaucoup de ferveur, je crois que c'est le mot le plus important. J'allais avec beaucoup de ferveur rencontrer les musiciens, et j'y suis allée beaucoup pour avec la sensation et le sentiment d'aller chercher un secret quelque part. Secret qui est lié aux flûtes que je joue, parce que ce sont des flûtes qui sont assez secrètes, qui ne se livrent et qui se délivrent pas si facilement. Il faut vraiment beaucoup de fidélité et de temps pour percer leurs secrets, parce qu'il y a des choses qui semblent impossibles. Quand on voit ce petit tube de rien du tout, on se demande comment il peut en sortir des choses aussi complexes.
C'est vrai.
Donc cette ferveur que j'ai eue à rencontrer les musiciens dans leur contexte m'a permis m'a nourri l'appétit d'y retourner et de revenir, parce que j'aime beaucoup y aller et j'aime beaucoup rentrer à la maison.
Pour retransmettre
Travailler moi-même tout ce que j'ai entendu, essayer de retenir ce que j'ai pu retenir, ce qui est une partie infime de ce que j'ai pu entendre, et retravailler. Et après, je dois dire que maintenant j'y vais moins. Je pense qu'il y a une histoire de... non pas d'appétit qui se soit tari, mais de désir de donner à mon tour quelque chose en cadeau de ces allers-retours. Voilà. Donc, et la transmission en fait partie, c'est sûr. Ça fait partie du partage. C'est un tout pour moi. C'est la même chose, un partage avec le public. C'est la même chose, un partage avec la personne qui vient avec la même ferveur que moi et qui l'est toujours, parce que je suis toujours élève aussi de quelqu'un. On est toujours dans cette espèce
de partage.
Mmh. Je considère que l'apprentissage est jamais fini. Et enfin, c'est pas une conviction personnelle, c'est très admis,
c'est
jamais fini. Et donc j'y retournerai, je pense, à nouveau dans sous peu, peut-être en allant encore plus la limite continentale de l'Europe est en train de, j'ai envie de traverser maintenant le, vraiment, et d'aller sur les rives asiatiques, puisque en rencontrant différents musiciens, notamment une musicienne iranienne là, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, l'envie de, et puis le kaval anatolien me donne vraiment envie d'aller maintenant encore, de poursuivre ma route vers vers le sud.
On parlera justement de votre instrument tout à l'heure. Je vous propose d'abord d'écouter un chant des moissons, un chant de travail, et on se retrouve tout de suite après et vous nous décrirez ce morceau. À tout de suite. Et je vous propose, Maya et Isabelle, de nous parler de ce chant. Quel est-il ? D'où vient-il ?
Alors, ce chant est un chant de travail. Un chant de travail qui vient de la région de, qu'on appelle Peishop, qui est dans la région de Sofia, en Bulgarie, puisque donc on est dans ce moment en train de parler des Balkans, et plus précisément de, d'un projet qui s'appelle Tovae et qui est en langue bulgare. Donc c'est sûr qu'on a mis un petit peu le focus sur la Bulgarie. Et non pas que ce soit la capitale forcément qui nous attire plus, mais enfin, le Peishop se trouve, enfin Sofia, la capitale, se trouve dans le Peishop, si je ne dis pas de bêtises, Maya. Et c'est un chant de moisson, parce que bien sûr, ces musiques-là sont, on va dire, de façon ancestrale, liées au monde rural, voire au monde pastoral. Donc, l'urbanisation fait que tous ces territoires de musique diminuent, Donc forcément, elles se décontextualisent, mais il reste quand même. Il reste quand même, puisque l'agriculture existe encore, bien sûr, mais c'est vivant dans les mémoires quand même. Et c'est vivant parce que la musique, ayant évolué avec la société, elle reste là. Quand Maya disait que dans une boîte de nuit, on peut très bien se retrouver un moment à danser sur une musique traditionnelle, c'est vrai, dans les mariages également, tous les moments importants, les musiques traditionnelles, même s'ils peuvent être orchestrés différemment, etc.
C'est bien plus ancré que chez nous, finalement.
Oui, ça va être. On pourrait comparer à certaines régions comme la Bretagne, par exemple,
ou la Corse,
ou la Corse, ou même l'Alsace. C'est pour les régions où c'est resté le Limousin, des choses comme ça. Mais c'est ça, multiplié. C'est encore plus vivace, je pense. Ce sont des pays où on chante encore beaucoup plus que chez nous. On danse encore beaucoup plus que chez nous. Donc la base, c'est pour ça que j'avais envie qu'on commence l'émission par un chant. La base, c'est quand même le chant, les berceuses, c'est comme dans l'histoire d'un nouveau-né, quoi. Le premier son qu'il entend dans le ventre de sa mère, c'est certainement tout l'environnement, mais le premier chant qui lui est destiné, c'est une berceuse. Et je pense que la voix reste dans toutes les sociétés le premier élément, le premier instrument, et les premières émotions musicales peuvent arriver par là. Donc le chant est très important, et tout ce qui est instrumental vient souvent du chant. Donc ce chant de moisson du pays Chop, je l'aime beaucoup parce qu'il reste très archaïque et très complexe. Et c'est ces mélanges qui sont très beaux dans les traditions populaires, c'est quand on a la richesse avec la sobriété des moyens et la grande richesse. Donc je pense que c'est une très belle leçon aussi de vie, tout ça, d'avoir des choses très complexes, tout en étant très simple aussi, très simple, parce que simple à immédiate à être véhiculé, très engagé dans le corps, puisqu'il y a quelque chose qui est tellement, tellement mémorisé, tellement séculaire, qu'il y a une espèce d'aisance à faire des choses très complexes. Et donc ces chants de moisson, pour moi, me plaît beaucoup. Et par rapport aussi au contrepoids qu'il peut apporter, par rapport aux polyphonies bulgares qui se sont beaucoup exportées sous le nom du mystère des voix bulgares, qu'on a vu un peu déferler partout, et qui donnent effectivement une idée, une très belle idée, ce sont des très belles choses, mais qui est une partie de ce qui existe et qui n'est pas du tout révélatrice de tout le patrimoine vocal de ces régions.
Et c'est assez occidentalisé, du coup, non plus adapté peut-être aux envies des occidentaux.
Je ne sais pas si c'est ça. Pour moi, je dirais qu'il y a une histoire de rapport entre musique savante et musique populaire. Les compositeurs en Bulgarie, pendant les époques communistes, devaient composer à partir du patrimoine folklorique ou populaire, en tout cas. Et donc, ils ne pouvaient pas non plus se priver de tous les outils qu'ils avaient de langage, parce qu'ils connaissaient, ils avaient une culture musicale énorme, dans laquelle les connaissances de musique savante d'Europe occidentale étaient très présentes. Je me souviens d'avoir parlé à des musiciens dans des endroits très très éloignés qui parlaient du mouvement surréaliste mieux que moi, qui parlaient de Debussy mieux que moi, etc. Donc toutes ces connaissances étaient là, et avec le patrimoine traditionnel, y a eu quand même des jonctions qui ont été faites, ce qui fait que la musique populaire, c'est d'une certaine façon savantisée. Je ne sais pas si ce mot existe, mais enfin, en tout cas,
on le comprend.
Voilà, elles se sont tout d'un coup, elles ont été portées par des langages. Du domaine savant. Et dans le mystère des voix bulgares, il y a eu des arrangements donc de Philippe Kouteff, qui est le plus emblématique, qui ont fait que ces chants, comme celui-ci qu'on vient d'entendre, ont tout d'un coup été mis dans une espèce de moule plus savant, avec des recherches harmoniques qui partaient des traditions populaires, mais qui étaient hypertrophiées aussi, et très 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 travaillées, et pour obtenir ce qu'on a pu entendre, ce qu'on connaît toujours.
Et pour Tovaé, est-ce que vous, je suppose que vous avez retranscrit toute cette richesse harmonique et brute qu'on peut avoir ici. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de l'utilisation de particulier que font les Balkans, de l'harmonie, des modes.
Oui, alors oui, ce serait un vaste sujet. Hein. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on revienne
plusieurs. On pourra faire un deuxième volet.
Oui, parce que du point de vue des modes, il y a beaucoup. Du point de vue, alors le rapport de la modalité et puis de l'harmonie, c'est toute une chose. Maintenant, on est dans ce carrefour en étant dans les Balkans et particulièrement en Bulgarie, mm-hmm. puisque Balkans, vous savez que c'est une montagne. Le mont Balkan, c'est oui. une montagne. Ça, Maya pourrait plus en parler que moi, qui est donc en Bulgarie, et qui a donné ce nom des Balkans. Mais la Bulgarie se trouve vraiment à la charnière. Hein, on n'est pas, il y a encore la partie de Thrace bulgare qui va encore avoir une partie de Thrace, cette fois-ci turque. Mm-hmm. Donc la Thrace est commune. Hein, on arrive au bout de l'Europe. La Thrace va être commune avec le sud de la Grèce, mm-hmm. le nord de la Grèce et le sud de la Bulgarie, pardon. Et du coup, ça fait un terrain où on a encore l'harmonie, la prégnance de l'harmonie occidentale qui peut être là, et en même temps la prégnance de la modalité du monde turc, du monde ottoman. Donc ça fait un mélange là directement, et en Bulgarie et en Macédoine notamment aussi, on le sent beaucoup, et en Thrace aussi évidemment. Alors tu pourrais dire quelques mots sur la montagne, cette vieille montagne, Stara Planina,
qu'on appelle Balkan. Ça sépare exactement de la Bulgarie. Et ce qui est surprenant, ça sépare aussi des parties ethnographiques. Donc on retrouve au niveau de la musique et de la danse une richesse de passant de l'autre côté de la montagne. Si on descend au sud, on va dans la vallée des Roses, en Thrace. On va retrouver le kaval avec une richesse incroyable, y compris les chants avec des ornementations, etc. Parfois, il y a des danses très lentes. Il y a aussi des danses d'improvisation comme Trakis, Karachenitsa, mm-hmm. que j'espère qu'on va entendre. Voilà, avec lenteur, avec un très magnifique travail de bras. Et si on passe au nord, on va dans Severniashko, c'est-à-dire Sever-Nord, où il y a aussi beaucoup, il y a des plaines, et on va trouver des danses avec énormément de sautiers, de déplacements. Et c'est aussi riche en musique, en danse et en costumes. Mais je voudrais faire une parenthèse par rapport aux voix bulgares. Effectivement, c'était beaucoup plus facile d'organiser un concert ou de faire un CD pour connaître les voix bulgares, mais les danses étaient au même titre reconnues, bon, sauf que plutôt en Bulgarie. Donc il y a aussi les compagnies d'État. Philippe Koutef, c'est depuis très longtemps, c'est le nom d'un des ensembles nationaux à Sofia, qui est de musique, chant et danse. Mm-hmm. Les musiques, chant et danse sont au même titre que la danse classique, la musique classique et l'opéra. Okay. C'est au même titre, et c'est toujours la Trinité. Elle existe, il y a des compagnies nationales d'État, et ça fait partie du parcours des musiciens et danseurs classiques, la connaissance des traditions des musiques et danses traditionnelles, et inversement pour les danseurs et musiciens traditionnels, des connaissances sur le monde classique des musiques, etc.
C'est d'ailleurs curieux dans les bacs. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de bacs dans les disques, parce qu'il y a moins de disques, c'est sûr, partout. Mmh. Mais dans les bacs, chaque fois qu'on était dans le rayon bulgare, c'était toujours les voix. Mmh. Mais ça, c'est les effets pervers un peu de la commercialisation. Voilà. On a fait une espèce de... On s'est dit, bon, pour la Bulgarie, ce qu'on va exporter surtout, c'est les voix. Mmh. Pour la Roumanie, c'est les tziganes. Etc. Et on a fait un peu des espèces d'autoroutes, finalement, voilà. Avec une vision très parcellaire.
Très simplificatrice. De tout ce qu'il peut y avoir. Alors, vous avez parlé, Maya, d'un morceau. Est-ce que vous pourriez nous redire le nom avec votre bel accent? On va l'écouter tout de suite.
Ça s'appelle Trakiska Rechenitsa.
aussi un traitement particulier du rythme, un rythme très scandé, une rythmique qu'on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer ici en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis d'autre part, comment vous faites pour le transmettre justement dans votre démarche pédagogique? Comment transmettre ce traitement du rythme si particulier et propre aux Balkans?
Oui, nous appelons ça 7-8, avec troisième temps, pour définir chez nous Rečenica. C'est un rythme irrégulier. Et oui, en toute honnêteté, les grands disent oui, c'est délicat, c'est compliqué. Et les enfants avec lesquels ça passe surtout, et avant tout par le corps et après par l'analyse, ils le trouvent très facile. Durant la création, dans la création de Tovae, il y a des enfants qui ont 6-7 ans, les premiers, jusqu'à très grands. Et ces enfants, ils dansent.
Ils n'ont aucun mal à... D'accord, incroyable.
Qui est écrit par Isabelle et arrangé par Isabelle, avec une facilité qui est surprenante. Ça, c'est des enfants du conservatoire, qui sont dans la classe de danse traditionnelle, de Manon Skedigne. Ils apprennent. Et il me semble que ce qui est nécessaire, c'est qu'ils aiment la musique, la mélodie, et tout de suite, ils se lancent pour apprendre les mouvements et imiter. Ça se passe par imitation, avec après, oui, des petites corrections. et d'un coup, ce rythme qui peut être compliqué, comme ça en analysant, devient facile et agréable.
Le musicien là qui joue dans l'extrait que vous venez de faire passer, Nedialkov, donc j'ai travaillé avec lui, et donc dans ce cas-là je suis comme l'enfant dont parle Maya, c'est-à-dire j'arrive et je répète, j'imite, et à force de cette imprégnation, les choses à nouveau viennent à l'intérieur et peuvent, étant à l'intérieur de moi, repasser à d'autres mains. Donc dans le cadre de Tovae, donc Maya a fait travailler les danseurs de Digne Manosk, des conservatoires. Et moi, j'ai fait travailler les musiciens, un ensemble de 20 musiciens amateurs que je vois une fois par mois, un week-end par mois, au conservatoire du Pays d'Apt. ce conservatoire, donc, depuis maintenant 15 ans, j'interviens donc pour faire un atelier de flûte cavale et musique des Balkans. Et ce sont des rendez-vous que j'aime beaucoup et on aime beaucoup se retrouver. En fait, chaque mois avec cet ensemble, ce sont que des adultes, il n'y a pas d'enfants. Il y a eu un moment quelques ados, mais les ados, ils partent toujours à un moment quand ils ont passé le bac. Donc c'est plus un groupe d'adultes où il y a des instruments, donc il y a cavale, et ça c'est très rare. C'est le seul conservatoire en France où il y a un atelier de flûte cavale. Des instruments spécifiques comme tambora, qui est un instrument comme une sorte de mandoline, on pourrait dire, mais plus longue, et qui des Balkans, qui est plutôt né de la musique persane, des setars persans, et tapane, la percussion vraiment emblématique, soit des janissaires, il s'appelle Davoul, soit pour les Grecs Daouli, ou chez les Bulgares donc Tapane, ce gros tambour à deux membranes. Évidemment, des instruments qu'on connaît plus par ici, l'accordéon, le violon, et les voix. Il y a aussi oud, et puis clarinette, l'instrument roi des musiques de Grèce. Donc, avec cet ensemble, on travaille dans l'oralité, comme la tradition
le veut, oui, le veut. Parce que les musiques sont transmises
oralement, sans partition, et donc par imprégnation, comme ça, successive, par répétition. Et à propos des rythmes, quand on regarde des enfants, par exemple, qui jouent dans une cour d'école, si on regarde un petit peu comment ils courent, parfois, ils courent à 5 temps. ils font d'un pied sur l'autre et ils ne se posent pas la question, est-ce que j'ai couru à 7, à 9, à 5, à 4, à 3. Et il y a des choses comme ça qui intuitivement peuvent très bien se faire. Après, tout ne se fait pas intuitivement quand on a une éducation musicale déjà un petit peu faite. Parfois, il faut désapprendre pour réapprendre.
Exactement.
Mais bon, on est tous un peu sur ça. Et du coup, par rapport à ce qu'on a entendu, donc Nedialkov, c'est fait partie donc de cette jeune génération des joueurs de cavale en Bulgarie. Et son maître à lui, puisqu'on est toujours, ça la tradition, hein, c'est pas fixe la tradition, hein, c'est justement lié à la transmission. Donc le maître qui est guère plus âgé que lui, mais quand même un peu de Nedialko, a été Théodosis Passov, qu'on va entendre tout à l'heure, et qui lui a eu une démarche aussi, il a tout intégré, son disque dur est rempli de toutes ces traditions qu'il connaît sur le bout des doigts et sur le bout de la langue, c'est le cas de le dire pour le caval, et qu'il a voulu lui orienter vers les musiques qui lui semblaient plus actuelles, en l'occurrence le jazz. Et c'est toutes ces musiques, et c'est un petit peu l'objectif aussi de Tovae, c'est de pas faire des restitutions, seulement des restitutions de choses, puisque moi en tant que française par exemple, se pose pour Mayal, se pose pas cette question de légitimité, c'est ses traditions, elle est venue avec, elle a grandi avec, elle les transmet. Pour moi, je peux vraiment, et je me la pose souvent, la question de la légitimité de transmettre des traditions qui ne sont pas les miennes. Quand je me pose cette question, si je réponds par la musique, ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que je suis au service de la musique ou est-ce que la musique est à mon service, toute ma légitimité est là. Si j'apporte moi aussi quelque chose en retour, et donc je peux apporter quelques compositions, sans aucune mégalomanie, hein, c'est simplement des recompositions de choses qui existent pour moi, des ingrédients que je mets ensemble et qui, à ce moment-là, comme elles sont façonnées par mes petites mains, je peux les transmettre sans trop m'inquiéter de ma légitimité à le faire. Et j'aime beaucoup faire ça parce que ça donne une espèce de sérénité qui est utile.
Est-ce qu'on peut parler justement du caval qui est votre instrument ?
Bien sûr, avec plaisir. Alors le caval, c'est un mot turc, parce que très souvent, donc, du fait de la domination ottomane qui a été très très longue, entre 4 et 5 siècles dans ces pays, beaucoup de mots du vocabulaire courant sont turcs. Et caval veut dire flûte en turc, donc c'est un terme générique pour dire toutes les flûtes. D'ailleurs, comme aksak, le rythme, le mot aksak, du nom du groupe dont je fais partie, est un mot turc qui veut dire boiteux, puisqu'on parlait des rythmes asymétriques. Donc caval est un mot turc, mais ce mot turc générique va dénommer des flûtes qui, si on les regarde et si on les écoute, parfois sont très différentes. Le caval roumain va être très différent du caval macédonien, lui-même différent du caval bulgare, lui-même différent du caval albanais, lui-même différent du caval turc ou anatolien. Donc, la plupart auront en commun une chose qui est très importante, qui est de faire partie de la famille des flûtes obliques. C'est-à-dire, chez nous, on connaît les flûtes droites, vous savez, c'est les flûtes à bec qu'on joue au collège, qu'on a appris au collège. C'est d'ailleurs... J'en profite pour donner encore une petite parenthèse. C'est grâce à mon prof de collège que je suis maintenant flûtiste professionnel. Donc je remercie cet enseignant qui, par son amour justement de ce qu'il transmettait, a fait des très belles choses. Parce que souvent c'est assez décrié l'enseignement des flûtes à bec au collège. Ça arrive que ce soit une catastrophe, mais ça arrive que ce soit des merveilles. Donc cette flûte, donc caval, n'est pas une flûte droite comme les flûtes avec, ni une flûte traversière, mais une flûte qu'on tient entre les deux, c'est-à-dire en oblique. Et c'est pour ça qu'elle fait partie de la famille des flûtes obliques. Et on ne les tient pas en oblique pour faire joli, ni pour pencher la tête, parce qu'on a beaucoup d'affection pour cette musique, mais parce que c'est nécessaire pour former le son. On est obligé de... Comme c'est un tube, si vous prenez un pied de chaise creuse ou un manche de béquille ou bien un petit bout de PVC ou encore mieux dans la nature, un petit bout de canne de Provence et que vous le coupez aux deux extrémités puis que vous enlevez tout ce qui est un peu au milieu, vous avez un tube. Un tube qui est comme une paille, un peu plus grand évidemment. Et ce tube tout simple, c'est ça le caval. Et une chose très importante dans son nom, donc c'est ce mot qui veut dire caval, la racine... de caval, c'est une racine arabe qui signifie la parole. La parole au sens très noble de la parole, c'est-à-dire la parole avec quelque chose d'un peu sacré. Et la flûte étant un instrument de berger, de tout temps, pendant quasiment toutes les cultures, la flûte est un instrument de berger. On voit bien en associant tout ça, le berger, le sacré,
la parole,
on voit bien qu'on a affaire à une flûte qui a une espèce de densité comme ça, qui livre un message, quoi. Mmh. Et le kaval a, à chaque fois, dans toutes les traditions, il y a toujours des chansons où il est question d'un pouvoir un peu surnaturel de cette flûte, qui est l'intermédiaire entre l'homme et le monde qu'il dépasse, soit le monde animal, on va dire. Le berger arrive à parler à ses troupeaux par l'instrument. D'ailleurs, en Anatolie, c'est toujours le cas. Le berger conduit le troupeau avec les airs du kaval. C'est-à-dire, le troupeau connaît l'air pour aller dormir. Il connaît l'air pour aller boire, il connaît l'air pour ne pas bouger, etc.
C'est incroyable.
Et c'est encore, ça existe. Hein. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc, il y a quand même une force comme ça liée au berger, au sens très concret et au sens aussi plus spirituel, mm-hmm. du guide. Voilà. C'est pour ça la parole. Mm-hmm. Et donc, le kaval est associé à ces deux fonctions, on va dire très concrète et très, très spirituelle. Voilà.
Et les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais nous avons justement sur ce plateau votre instrument, plutôt vos instruments, puisqu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'on aurait le privilège de pouvoir vous entendre ?
Alors, je vais vous faire entendre déjà ce que c'est que le tout petit son du kaval. C'est-à-dire, ça c'est quand même un gonflé à la radio de faire entendre ça, mais ce qui est le son qui fait partie des tout petits sons du kaval. Voilà, ça c'est vraiment la base du son. Ensuite, il y a vraiment le souffle. Et à partir de là, on peut greffer tout un certain nombre d'ingrédients qui font le son.
Merci beaucoup. Mayami Neva, c'est une musique, en tout cas l'instrument permet une musique très contemplative. Est-ce qu'on peut danser justement ? Est-ce que c'est danser en Bulgarie sur quelque chose de moins rythmique, de plus, avec un temps plus lisse ?
Ça c'est plutôt des musiques à écouter, spécialement ce qu'elle a écrit Isabelle, ça existe, c'est très présent toujours et c'est vraiment à écouter. Et probablement on danse, mais on danse à l'intérieur en fait. Voilà, c'est introverti. En tout cas, la musique qu'elle fait Isabelle, qu'elle écrit aussi, donne toujours envie de danser. Et je crois que la réussite aussi de Tova tient beaucoup, beaucoup à ça. Aussi de notre atelier au Conservatoire des Alpes de Provence est plus récent. Aussi d'Isabelle, 10 ans. Mm-hmm. Ça fait 10 ans déjà qu'il existe une classe de danse traditionnelle.
C'est une chance que ça existe sur notre territoire, parce que c'est assez rare en France finalement que les danses traditionnelles des Balkans soient incluses dans un conservatoire.
Il est vrai que c'est rare tout simplement des danses traditionnelles qui soient présentes dans un conservatoire. Mm-hmm. Donc pour moi c'est une chance, mm-hmm. de pouvoir travailler avec, et puis dans les cours nous travaillons dans la joie et la bonne humeur et surtout je m'efforce toujours de donner beaucoup de plaisir, les fondamentaux de la danse, hein, je crois que nous les retrouvons dans les danses traditionnelles, et la chance de pareil dans cette création de réunir des générations, des musiciens, des danseurs, il y aura également des chants, c'est une tradition aujourd'hui ici en Provence. Mm-hmm.
intergénérationnel.
Oui, que nous pouvons voir en fait ce dimanche, 18 mai à 17h30 au Théâtre Jean Le Bleu. Entrée gratuite.
C'est gratuit.
Tout ça, c'est en fait la direction du conservatoire à Manosque. Oui, Théâtre Jean Le Bleu à Manosque. C'est la direction du conservatoire qui a proposé. Et pour cette création, contrairement à l'année dernière, le tout début de la première, elle est enrichie avec de nouvelles musiques et de nouvelles d'autres danses.
Donc on a tout à gagner à aller voir ce spectacle ce dimanche. Je voudrais vous proposer d'écouter justement, on en parlait tout à l'heure, Théodosie Spassoff. On va écouter un court extrait. Vous verrez que ce compositeur part de quelque chose de très contemplatif avec le cavale et ensuite décontextualise cet instrument et l'amène vers le jazz. On écoute ça tout de suite et on se retrouve tout de suite après. On vient d'entendre un extrait de Théodosie Spassoff que vous admirez, Isabelle. Et il y a de l'actualité pour vous, puisque vous venez de sortir un album qui a reçu de très bonnes critiques récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, il s'agit d'un album qui s'appelle Confluence 1, parce que j'ai bon espoir qu'il soit suivi d'un deuxième, et voire d'autres. Et donc, c'est un album de composition. Ça fait partie de ce que je vous disais tout à l'heure, les petits allers-retours, c'est-à-dire quand je passe un pont et que je reprends au retour, souvent dans nos bagages, au retour de voyage, on a des petits cadeaux. Et ça, c'est un petit peu ça. Ce Confluence 1, donc, ce sont des compositions où j'ai eu plaisir à inviter 19 musiciens. C'est un projet... très généreux, on va dire. Chaque musicien a apporté vraiment sa touche de couleur, sa particularité, son geste. Il y a un musicien indien qui s'appelle Nabankur Bhattacharya qui joue les tablas, Shadi Fatih, musicienne iranienne qui joue le sitar, Fanis Karusos qui joue le santour, grecs. Je ne vais pas tous les nommer parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a vraiment une palette de musiciens très, très, très généreux et avec chacun vraiment tout un monde à chaque fois. Et l'idée, c'était que le caval, ce petit fil, qui est un fil d'or, hein, bien entendu, mais qui est quand même petit, relie tous ces univers et par une sorte d'idée musicale. Et cette idée musicale, c'est le timbre, c'est la palette, c'est tout justement ce qu'on peut... Quand on entend un son, on a l'impression qu'il nous touche et on dit le mot toucher, et c'est pas par hasard qu'on dit le mot toucher, c'est qu'il vient s'adresser à quelque part de nous, de notre peau, mm-hmm. de notre peau intérieure et de notre peau extérieure, et qui nous fait de l'effet.
Tactile.
Et voilà, et donc c'est cet effet-là qui me semblait important de pouvoir mettre dans un écrin et donner à partager. Donc ce sont des compositions, tous les titres sont des compositions, à chaque fois avec des univers vraiment très différents. Et le challenge, c'était de réunir ces 10 univers différents dans une même pensée. Mmh. Et cette pensée, c'est en fait... je ne sais pas si un jour vos auditeurs ou vous voient l'album, et les musiciens, on les voit tous enfants. Et cette pensée, elle est liée à l'enfance, c'est-à-dire à nos rêves, à chacun nos rêves d'enfant, qu'on soit adulte ou... On reste des enfants qui ont rêvé, et je pense que ce disque, il est associé à ça. Et à un message aussi, c'est de faire confiance à nos rêves d'enfants. Voilà, donc c'est ça le principe de cet album. Les différentes musiques, pour moi, il est assez difficile de les décrire parce que chaque fois, c'est une espèce de bain musical. C'est comme si on plongeait dans de l'eau. Mm-hmm. Le titre Confluence dit bien cette idée-là de fluidité. C'est-à-dire par rapport aux frontières dont on parlait tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, c'est la fluidité. Mm-hmm. C'est comment on peut, chacun de nous, à travers nos propres frontières, qui nous divisent parfois, qui font qu'on a des dilemmes, comment on peut les traverser, comment on peut trouver l'eau qui nous permette de, et ben voilà, d'avancer. Et donc, c'est ça, le principe de confluence. Et oui, les récompenses, j'ai oublié de les dire, c'est le coup de cœur de l'Académie Charles Cros. Ça, c'est très fort pour moi, parce que c'est une académie très importante. Et puis, là, j'ai su ça hier, un bravo de Trad Magazine avec un très bel article. Donc, je suis très contente qu'il y ait des bons retours.
Toutes nos félicitations, et vous aurez l'occasion, vous avez déjà d'ailleurs eu l'occasion d'écouter des extraits de cet album sur Fréquence Mistral, et je vous propose d'écouter Jasmine, un extrait de cet album qui a été composé pour le film d'Alain Huguetto, que nous avons aussi eu le plaisir de rencontrer. Nous avons fait un reportage dernièrement sur Jasmine. On se retrouve tout de suite après cette écoute.
Thank you.
Jasmine, extrait du dernier album d'Isabelle Courroy qui est sorti dans les bacs récemment. Il est bientôt l'heure de se quitter. Il nous reste quelques minutes pour rappeler les informations pratiques de Tovae qui se déroule ce week-end.
Rendez-vous à 17h30 au théâtre Jean Le Bleu pour le spectacle Tovae. Entrée libre. Théâtre Jean Le Bleu à Manosque. Entrée libre. Vous pouvez réserver sur le site du conservatoire et CRD04. Rendez-vous dimanche ou à très bientôt.
Merci beaucoup à toutes les deux, Isabelle Courroy et Maya Mineva. Et n'hésitez pas à vous rendre à ce fabuleux spectacle. Et n'hésitez pas également à écouter Fréquence Mistral sur nos ondes. Vous pourrez découvrir les musiques de ces artistes. À très bientôt et merci à vous deux.
Merci. Merci. Dovish Danet.